Donc Nicolas Le Chaupier, qui fait partie du comité scientifique d'ELEA. Je te laisserai dire plus toi-même sur quoi tu travailles, peut-être ouais. d'où tu parles, tu ouais. diras mieux que moi. Mais à qui donc nous avons demandé qui nous fait la gentillesse d'assister à la journée et puis à qui nous avons demandé de réagir de son point de vue sur ce qui s'est passé aujourd'hui, parce qu'on pensait que c'était bien qu'il y ait un petit regard aussi à l'extérieur, disons, du cercle ou des cercles d'ELEA. Voilà.
Je ne vais pas parler très très longtemps, même pas parler longtemps du tout. En fait, on a dû me demander de réagir aujourd'hui. Parce qu'effectivement, j'ai une sorte d'expérience dans le domaine de la recherche collaborative, mais pas en tant qu'acteur, en tant que chercheur, puisque je fais de la recherche en philosophie des sciences. Et je me suis intéressé aux relations entre les gens qui faisaient des expérimentations médicales et les patients qui sont, entre guillemets, cobayes, en tout cas personnes participant à des recherches. Et je me suis intéressé aux questions d'éthique qui sont posées par ces relations de recherche dans le domaine de la médecine. Alors évidemment, dans le domaine de l'éducation, les enjeux et les situations et les acteurs sont très différents. Mais on retrouve une part des débats qui est un petit peu commun, une part commune dans les questions qui se posent. Mais je ne vais pas faire un exposé sur ce thème-là en général. Peut-être repérer quelques petits points sur lesquels on pourrait discuter. Je trouve très intéressant l'idée de lieu d'éducation associé. C'est un exercice un peu facile, mais je me suis demandé en fait ce que, du point de vue d'un prof, d'un enseignant, d'un lieu, comment est-ce que l'expression lieu d'éducation associé était utilisée? Parce que du point de vue de l'IFE, c'est facile. On sait qu'il y a des lieux d'éducation qui sont associés à l'IFE. Mais est-ce, d'un point de vue d'un lieu, comment on appelle ce lien, en fait? On est associé à quoi? Voilà. Et si on regarde l'affiche, qui est là, c'est une affiche avec un peu une étoile. Alors les géomètres pourront me corriger. Je ne sais pas exactement comment on appelle cette figure, mais elle est centrée. Et je me suis demandé pourquoi il y avait eu un choix d'une image centrée ou d'une image en étoile pour parler de quelque chose qui est un réseau. Oui, je parle de l'affiche. Non, je n'étais pas là ce matin. Enfin, si, j'étais là ce matin. Vous en avez... Ah, d'accord, c'est le tournesol, d'accord. Mais tu vois, je n'ai pas fait ce lien. D'accord. Ouais. Non, mais effectivement, la remarque que je fais tombe un peu à l'eau, puisque effectivement, la figure est expliquée, c'est une figure de tournesol qui repique et reboucle. Donc voilà, cette remarque tombe à l'eau. Bon, mais je voulais quand même... je voulais quand même questionner les rapports de l'organisation, en fait, de ce réseau. Voilà, c'était un petit peu cette question-là que je voulais poser. Avant de venir à ça, je voudrais juste dire quelques mots de ce qui vient d'être dit dans l'atelier, où moi, je crois qu'il s'est dit des choses très intéressantes sur quelle expérience ça produisait de participer à une recherche. Soit qu'on est un chercheur, soit qu'on soit un enseignant qui participe à ces recherches. Ce matin, quelqu'un m'a dit « Moi, ça me passionne de faire ça. Je ne sais pas exactement, même je ne sais pas du tout où ça m'emmène, mais c'est une aventure. Participer à la recherche, c'est se déplacer vers un lieu qu'on n'a pas tout à fait identifié. » Donc il y a cette dimension qui est, je crois, importante de la recherche comme aventure, mais ça crée aussi une tension, parce que ce matin, on nous a dit on va évaluer. On évalue que quand on sait où on va arriver. Et là, la recherche comme aventure, comme prise de risque, on ne sait pas exactement où on peut arriver, et donc ça pose une difficulté d'évaluation, mais là qui est transversale et sur laquelle je ne vais pas forcément m'étendre. J'ai trouvé intéressant, Luc Trouille ce matin a défini l'évaluation comme nécessitant des indicateurs, et les indicateurs, il a défini ça comme quelque chose qui nous permet de voir qu'on a avancé. Et au vu des témoignages que j'ai entendus tout à l'heure, je ne suis pas sûr qu'avancer sur une ligne droite soit la meilleure métaphore. Moi, j'ai l'impression que c'était plutôt l'idée d'une transformation. Quelque chose d'une une métamorphose, où on se transforme plutôt qu'on avance ou qu'on progresse sur une ligne continue. Bon. Ça se pose aussi dans le domaine de la santé, où les critères, je dirais, de qu'est-ce qui est une bonne recherche, qu'est-ce qui est un bon médicament. sont toujours à réfléchir. Et aujourd'hui, dans le domaine des recherches, dans le domaine de la santé, on parle plutôt des critères d'empowerment ou de capacité à agir. Finalement, le but d'une recherche, c'est pas forcément que les gens soient, que la population soit en moyenne en meilleure santé, mais peut-être que les gens gagnent en pouvoir d'agir, gagnent en capacité d'action. Et il me semble que dans les témoignages qu'il y avait cet après-midi dans l'atelier, il y avait un peu cette dimension-là qui ressortait. Finalement, s'il fallait lister tous les résultats de recherche, peut-être qu'on aurait des fois un peu du mal, mais en revanche, peut-être qu'on a gagné en capacité à agir, on a gagné en estime de soi, on a gagné en pouvoir d'action. Voilà. Donc ça, c'est, je crois, une chose intéressante qui découle de la recherche. Je voudrais parler un tout petit peu des outils, même si ça a été beaucoup discuté ce matin. Il me semble que la représentante du ministère a dit, puisqu'on donne des moyens, on va évaluer. Et il a été dit aussi qu'on demandait aux Léa qui recevaient des HSE de remplir un document. Et que ceux qui ne recevaient pas de HSE n'étaient pas peut-être forcés de remplir ce document. Moi, j'ai vu une structure d'échange. Il y a un peu quelque chose qui est de l'ordre du donnant-donnant. Voilà. Je crois que toutes les relations sociales ont une part d'échange, mais je me suis posé la question de ce qu'était cet échange, quelle est la qualité de ce qui est donné. Je crois que ça a été discuté aussi ce matin sur les carnets de bord, les journaux de bord, leur statut, leur utilité. Est-ce que les acteurs qui le donnent en échange d'un statut, d'une association, est-ce que ces acteurs-là y mettent la valeur que l'institution attend qu'elle ait? Je me suis aussi posé la question du comité de pilotage du réseau. Il m'a semblé que dans ce comité de pilotage, bon, je mets un peu les pieds dans le plat puisque je suis extérieur, c'est mon rôle, il n'y a pas beaucoup de lieux qui sont représentés dans le comité de pilotage. Alors ça, je me suis demandé, pour un réseau de recherche collaborative, est-ce que ça reflète l'état d'esprit de collaboration? Donc c'est peut-être une question à poser et ce n'est pas du tout une accusation. Je pense que les choses... son mouvement n'est pas du tout figé, mais je me posais cette question-là. Parce que la question du comité de pilotage pose la question des rapports de pouvoir. Qui a le pouvoir sur la définition de ce qu'est un Léa? Et je pense que ça, c'est important, et c'est même une question clé, parce que dans la relation de recherche en général, l'un des écueils les plus importants, c'est celui des relations de pouvoir et de domination qui peuvent traverser... les activités scientifiques. Une petite remarque. L'un des problèmes qui s'est posé dans la recherche sur les médicaments, c'est justement que les médecins ont un ascendant, ont traditionnellement plus de pouvoir que les patients qui sont à l'hôpital, qui sont subis. Et ça, c'est la difficulté principale pour qu'une recherche se passe correctement. C'est le défi le plus difficile à relever, c'est celui des relations de pouvoir dans les relations sociales de recherche. Dans le domaine de l'éducation, il y a des statuts différents. Il y a le ministère, les inspections académiques, les proviseurs, les enseignants, les élèves. Et il y a des différentiels de pouvoir entre toutes ces personnes-là. Comment faire des recherches collaboratives qui impliquent des niveaux différents, des statuts, des prestiges sociaux différents sans reconduire, finalement, ces relations de domination. Et ça, je crois que c'est une question qui est difficile à poser. Une des choses aussi qui m'a marqué, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé, sauf dans l'atelier dont je sors, de la place des élèves dans ces recherches collaboratives. C'est-à-dire, finalement, est-ce que les élèves sont des partenaires de ces collaborations? Les élèves ou en tout cas les publics qui sont les destinataires finaux, qui sont les juges de l'utilité sociale de nos recherches. Il me semble que c'est une chose aussi à prendre en compte. Et ne pas la prendre en compte, c'est peut-être d'une certaine façon reconduire l'institution dans sa dimension d'inégalité. Et il y a peut-être quelque chose à questionner là-dessus. Je ne sais pas si je vais m'arrêter là. Simplement rappeler ou souligner que l'un des enjeux qui est important de ces recherches, c'est celle de la restitution et du partage des connaissances. Ça aussi, c'est quelque chose quand on est, je dirais, focalisé sur construire un réseau, mettre en place des recherches, on peut avoir tendance à ne pas penser à ce qu'on va faire après avec ces recherches-là et à omettre le moment de restitution des résultats. Alors, on a eu l'exemple inverse aujourd'hui avec l'exposé des gens qui ont fait un master sur les outils, hein, qui sont venus restituer une recherche auprès de qui elle pouvait être utile. Je pense que ça, c'est une chose qui est trop rare. Moi, je connais plein de masters qui ne font aucune restitution auprès des gens qu'ils ont interviewés pour produire la recherche. Mais là aussi, ça pose une difficulté. Je vais terminer là-dessus. Moi, j'ai vu en santé, j'ai étudié des projets sur le terrain et j'ai essayé de regarder comment ils s'y prenaient pour restituer la recherche. C'est très difficile pour un chercheur de savoir à quoi va servir sa recherche. Parce qu'il y a toujours une dimension de réappropriation, de réinvention des outils. Et c'est difficile. Le chercheur a à la fois le devoir déontologique de restituer les savoirs qu'il a produits, mais en même temps, il ne peut pas forcément les flécher ou les orienter parce que la façon dont ces résultats vont être réappropriés est imprévisible, imprédictible. Et ça, c'est aussi une tension. Mais je crois que ça fait partie de la dimension aventurière, aventureuse de la recherche. Et voilà, je termine sur ce point-là. Merci.
Peut-être que vous avez quand même envie de dire encore quelque chose. Oui, Michael.
Je pense que dans notre atelier, l'atelier où j'étais présent, on a relevé un point qui mériterait discussion, à mon avis, dans les prochaines journées, et je pense que vous avez mis le doigt dessus, c'est l'aspect collaboratif de la recherche dans les recherches qu'on mène, qui est une spécificité, en tout cas affichée, des recherches dans le dispositif Léa. Et je pense que ça mérite un travail, des discussions et un travail, une avancée sur ces questions-là.
Là-dessus, je voudrais juste mentionner, dans le bulletin recherche, j'ai fait un petit texte qui fait 2 pages sur l'histoire des recherches participatives, qui sont peut-être quelque chose de différent des recherches collaboratives. En tout cas, il y aurait une discussion à avoir là-dessus. Mais ce matin, j'ai aussi discuté au café avec notre collègue qui est là, dont je ne connais pas le nom, de l'école Freinet, et qui me rappelait que ce genre de dispositif d'école dans lesquelles se produisent des expérimentations, et c'est avec des expérimentations qui sont discutées, partagées au niveau régional, puis redéclinées d'autres façons, etc. Ce genre d'expérimentation existait après 1945, en découlant du plan Langevin-Wallon, si j'ai bien compris. Et je pense qu'il faudrait réfléchir sur ce que c'est qu'une recherche collaborative aujourd'hui, et peut-être aussi pas être ignorant de l'histoire qui nous a aussi conduit là où nous sommes aujourd'hui. Enfin, je dis ça parce que je ne mentionne pas ce plan Langevin-Wallon dans mon petit texte, alors que si j'avais su, je crois que j'aurais essayé de le faire.
Donc, avis à la population, tous ceux qui veulent réfléchir, produire des choses autour de la méthodologie de recherche dans les LEA et les recherches collaboratives, il faut construire quelque chose. C'est quelque chose qui doit se faire dans le réseau et avec d'autres personnes. Mais chacun d'entre nous, on est responsable.
Juste pour poursuivre cette discussion sur qu'est-ce qu'une recherche collaborative, je voudrais juste rappeler qu'il y a, en 2009, s'est tenue une école d'été de didactique des mathématiques consacrée à l'ingénierie didactique. Et donc, grosso modo, il y avait trois points, en quelque sorte. L'ingénierie pour produire des phénomènes et étudier le système. La recherche-action, où on ne sait pas trop où on va, mais on va essayer de changer un petit peu les choses. Et puis, ce que je mettrais dans la catégorie recherche collaborative, c'est-à-dire qu'il y a un chercheur qui sait à peu près quelles sont les hypothèses qu'il a posées, et donc les questions. Et il y a un terrain d'expérimentation. Et il me semble qu'on est, dans les LEA, on est dans ce cadre-là. C'est-à-dire, c'est pas forcément ce qui s'est passé en mathématiques avec les ingénieries de Guy Brousseau qui ont donné naissance à la didactique des maths parce qu'il y avait... On provoquait des phénomènes, on les étudiait, on les théorisait, etc. Là, c'est les deux. C'est aussi c'est on a des hypothèses, on va les tester, et en même temps, il y a une transformation des acteurs sur le terrain, avec la visée d'une diffusion. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est quand tu parlais de la place des élèves. La relation didactique, elle est forcément dissymétrique, parce que le professeur sait avant les élèves et il sait à peu près où il va les mener. Il me semble que ce qu'on essaye de faire, c'est de laisser de la place pour les élèves relativement à la fabrication, à la construction des savoirs à l'intérieur de l'école. Et je ne sais pas si les élèves peuvent l'exprimer, parce que justement, ils ont davantage de place, etc. Alors donc, il faudrait des comparaisons, il faudrait des choses comme ça. Et donc, une dimension qui me semble intéressante, c'est de regarder relativement, c'est ce qu'on essaye de faire, par exemple, au Léa Marseille Vert, c'est de regarder si le rapport à l'étude d'un savoir, pour nous c'est les mathématiques, a changé, et a changé ces processus de changement, on sait qu'ils sont relativement longs, c'est-à-dire sur des cohortes d'élèves qui ont été soumis à d'autres formes d'enseignement qui leur laissent davantage de place, relativement à des cohortes d'élèves qui, eux, sont enseignés d'une manière plus traditionnelle. Voilà. Et bon, on ne se rend pas tellement compte quand on n'a pas ces critères de comparaison. Et donc là, on est dans l'évaluation en quelque sorte qualitative et non plus quantitative en termes de résultats, d'apprentissage, etc., comme on le connaît à travers des tests, des examens.
En fait, moi, je ne vais pas trop réagir sur la symétrie prof-élève, parce que ça, je pense que c'est une discussion très très longue. Juste sur la recherche collaborative, il me semble que peut-être si on l'apprend comme tu l'as défini, on se retrouve justement dans le genre de problème qu'on a rencontré dans les ateliers, c'est-à-dire le problème de « Ah, mais les gens ne sont pas intéressés, on a du mal à associer les autres collègues ». Peut-être que les retombées ne sont pas forcément très faciles à définir. Ce que je veux dire, c'est que quand le chercheur sait à ficeler la recherche en amont, ça pose des problèmes insolubles, je pense, insolubles, de diffusion. Et on a ça à l'échelle, j'irais, nationale. Aujourd'hui, il y a, je ne sais pas si vous savez que le CNRS a mis en place une commission sur les sciences citoyennes, une commission depuis 2013, pour réfléchir justement sur le divorce, je dirais, des citoyens avec la science, peut-être une des façons l'atténuer ou de le transformer, ce n'est pas en renforçant la culture scientifique et technique, la diffusion, mais en associant en amont les non-scientifiques à la recherche, donc notamment dans le cadre de recherche citoyenne. Et du coup, peut-être que la recherche collaborative, elle a ce défaut-là, qu'elle ne se résout qu'en diffusion et qu'elle n'est pas assez fondée sur un partage de départ d'un questionnement. En tout cas, c'est un thème de réflexion, je pense.
Un petit peu dans la continuité de ce que tu viens de dire, là. Moi, il me semble que peut-être que ces journées, enfin, tu disais, Réjeanne, c'est à chacun de construire. Mais je pense que ces journées, elles peuvent servir à ça, quoi. C'est-à-dire que moi, j'attendrai dans l'avenir davantage de temps moins affiché, où on ait plus de temps d'échange et de construction, quitte à ce qu'il n'y ait pas un programme aussi étoffé, quoi. Voilà. Mais peut-être que je suis le seul, hein, à attendre ça, mais il me semble que... J'étais pas là ce matin, hein, donc... mais il me semble que moi, j'attends vraiment ça, parce qu'on a des problématiques au sein de notre Léa. On se rend compte, avec Mickaël, par exemple, qu'on a des choses... qui se rejoignent beaucoup, hein, sur ces problèmes de statut des professeurs par rapport aux chercheurs, etc. La façon dont on peut construire ensemble, la façon dont, au sein du Léa, des enseignants se retrouvent isolés parce que les autres enseignants les considèrent comme perdant leur temps avec nous, etc. Il y a toute une série de problématiques comme ça qui sont vraiment spécifiques à la construction d'une recherche, moi j'appelle collaborative, mais enfin on peut utiliser d'autres mots, qu'il faut vraiment qu'on discute ensemble, parce que si chacun fait son truc dans son coin... on va s'épuiser, quoi. Donc, et je pense que on parlait tout à l'heure d'ouvrir un forum, mais un forum, ça marchera pas si on n'a pas des amorces qui s'opèrent dans ces journées, quoi.
J'espérais que les ateliers commenceraient quand même un peu à brasser des choses comme ça. Effectivement, c'est difficile de faire les programmes de ces journées, Et c'est une bonne idée de les ouvrir plus, je pense, avec des temps d'échange plus larges. Il faut quand même, je pense, s'ils pouvaient, par exemple, émaner de ces journées, de cette journée-là, des problématiques qu'on traiterait dans la prochaine, parce que c'est aussi difficile d'arriver en disant, bon, ben voilà, on va parler ensemble. Voilà, donc on en a sûrement proposé dans les différents ateliers. C'est super si le programme de la rentrée est fait.
Effectivement, c'était la problématique de l'atelier, c'est que finalement, quand on arrivait à la discussion finale, on s'est dit, alors autant, moi, je pense que ces temps collectifs, avec des thématiques bien identifiées sur lesquelles on souhaite avancer, c'était vraiment nécessaire. En revanche, il aurait fallu que le temps de l'atelier soit vraiment ouvert. C'est-à-dire, on rassemble des personnes et on discute, là, on avait 1h30, c'était quand même pas beaucoup sur la journée, mais quelque chose de très ouvert pour commencer à se connaître, voir si on est bien ensemble. On n'est peut-être pas bien ensemble, peut-être qu'une personne aurait pu dire « Oui, non, mais moi, dans vos problématiques, je ne m'y retrouve pas. La prochaine fois, j'irai peut-être dans un autre groupe, ou etc. » Et justement, ce temps très ouvert aurait sans doute été plus productif en termes de thématiques à aborder pour les fois suivantes.
Oui, donc moi je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit et que je trouve tout à fait intéressant en termes de définition de ce que doit être ou de ce que devrait être une recherche collaborative, c'est-à-dire cette idée que vous mentionniez, Nicolas, qu'en fait il est nécessaire que chacun fasse un bout de chemin l'un vers l'autre. On ne peut pas concevoir, me semble-t-il, un Léa dans lequel, au fond, les chercheurs viendraient imposer aux acteurs éducatifs des problématiques, des hypothèses, des façons de résoudre, etc. Pour moi, ce qui est très important, et ce qui est très important pour la DGESCO, le DRDIE, le ministère, c'est justement que l'aventure que représente un Léa soit l'occasion d'une formation et d'une co-formation les uns par les autres. Et quand je parle de co-formation, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que, par exemple, les chercheurs, de la même façon que le terrain a tout à attendre, à souhaiter de la part des chercheurs, les chercheurs ont tout à attendre et à souhaiter de la part du terrain. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'absolument essentiel et c'est ce qui doit faire l'originalité du modèle du Léa. Ensuite, vous parliez tout à l'heure de la question des relations de pouvoir. Il est bien évident que c'est en travaillant ainsi qu'on peut envisager, sans naïveté excessive, une reconfiguration des relations de pouvoir, une façon de penser les choses autrement et de penser un vrai travail collaboratif. Alors, je voudrais terminer par un exemple. Je crois que dans un des ateliers, il a été dit, par exemple, que les chercheurs n'avaient rien à faire dans le domaine de la communication. Eh bien, je crois au contraire que quand on est chercheur, ce qui fait partie du travail, c'est aussi de communiquer sur ce que l'on fait. Et de la même façon que quand on est un acteur de l'éducation, ce qui fait partie du travail, c'est de s'interroger sur ses propres pratiques et autant qu'il est possible, à partir de ce travail d'interrogation, produire une forme de recherche ou y contribuer. Et je voudrais terminer sur la question de la visibilité et de l'invisibilité. Je crois qu'il est extrêmement important, si l'on veut repenser la question de la recherche comme étant une recherche non pas en éducation, mais une recherche pour l'éducation, à associer. Alors je sais que les critères bibliométriques sont extraordinairement quelquefois rigides et posent toutes sortes de problèmes, mais il me semble qu'il est important d'associer dans une publication un chercheur et les enseignants ou les acteurs de l'éducation qui ont contribué à cette recherche. Alors, il est bien évident qu'en termes d'impact factor, les articles n'ont pas le même impact selon la revue dans laquelle ils sont publiés, selon ce dont ils traitent, et selon qui les signe. Mais en même temps, je pense qu'il est indispensable qu'il y ait une véritable visibilisation de ce travail qui associe les chercheurs et les acteurs de l'éducation pour leurs bénéfices mutuels. Et je termine par une petite remarque de bas de page en disant qu'il me semble essentiel que les chercheurs, et ce n'est pas qu'une remarque de bas de page, les chercheurs connaissent mieux le système éducatif. et je m'autorise à dire cela, peut-être, parce que je ne me suis pas présentée en début de matinée, mais je viens moi-même, je suis issue d'un laboratoire de recherche, j'ai une expérience de recherche, je suis docteur en sociologie de l'éducation, et si j'ai choisi de rejoindre le ministère, c'est aussi parce qu'il me semble essentiel de porter ces différents points de vue, et d'avoir un pied dans chacun des deux mondes, et de favoriser leur dialogue et leur rapprochement. Merci.
Merci. Je vois Michel.
Cela me donnait très envie de poursuivre par rapport à cette intervention, en voulant souligner l'importance au sein de l'IFE et au sein d'ELEA d'un statut particulier dans les gens qui travaillent à l'IFE, qui sont des enseignants du secondaire, qui ont entamé des activités de recherche et qui, me semble-t-il, sont des passeurs entre ces enseignants de terrain et les chercheurs qui viennent directement du monde de l'université.
Oui. Je voudrais rebondir aussi.
Secondaire et primaire.
Voilà.
Mais il y en a presque plus du primaire, mais secondaire et primaire.
Rebondir aussi sur cette importante notion de reconnaissance. Dans le domaine de la santé, il est arrivé que certains articles voient plus de 1500 auteurs listés, lorsque justement les patients qui avaient contribué au... Voilà. Mais 1500 auteurs, parce qu'ils incluaient les patients.
Oui, oui.
Voilà, donc des noms scientifiques.
Et pourquoi ? Et pourquoi ?
Voilà.
Bon, je voulais revenir, parce que on vient d'en parler avec Yves, fait remarquer, c'est juste une belle parenthèse, que sur la question de la méconnaissance par les chercheurs du monde de la recherche,
sur la question de la méconnaissance du monde de la recherche, du monde de l'éducation, et notamment de sa réalité, je dirais, administrative, de terrain, etc., par les chercheurs, il convient évidemment d'établir quelques nuances. Bon, Yves fait remarquer que la plupart des chercheurs de l'IFE connaissent très bien le système éducatif. Mais il y a des exemples, malgré tout, de chercheurs qui connaissent le système éducatif, et je le sais, puisque j'ai eu l'occasion, je dirais, de l'expérimenter, y compris, je dirais, sur ma propre personne, c'est-à-dire là où je pensais bien connaître le système éducatif, je ne le connaissais pas si bien que cela. Et quelquefois, ça passe aussi par une connaissance administrative, qui certes est peut-être un peu plus austère, dirons-nous, mais qui néanmoins est très intéressante et permet surtout de comprendre quelles sont les logiques et les leviers d'action.
Voilà. Et juste me permets, puisque j'ai un micro devant moi, de me faire l'écho de quelque chose qui se disait aussi dans la journée, qui est que pour que les chercheurs et les enseignants, notamment, puissent se rapprocher, il faut aussi que les enseignants aient un appui. Là, on parle des enseignants de terrain, et un appui fort et volontariste pour être dégagés des urgences dans lesquelles ils sont pris, parce qu'ils sont, militants sur le terrain. Et il ne faut pas que la recherche elle soit à la fois empêchée ou un obstacle à la réalisation de ces missions, et empêchée par le fait que les gens sont pris sur le terrain et ne peuvent pas dégager du temps. Donc il a été dit par exemple tout à l'heure qu'une journée banalisée visant à mutualiser des connaissances produites dans le cadre d'un LEA avait été refusée par un recteur. Il me semble que ça, c'est le genre de politique qui est peut-être pas très favorable à tout ce dont on est en train de parler. On ne peut pas collaborer si on n'a pas aussi des moyens qui viennent vraiment nous libérer sur le terrain.